des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui Jacques Fontaine de la Ligue des droits de l'homme, universitaire géographe, engagé, qui est déjà venu de nombreuses fois à cette antenne pour nous parler du Proche-Orient, de l'Algérie et plus récemment de la guerre en Ukraine. Bonjour Jacques.
Bonjour à toutes et à tous.
Jacques, vous avez donné récemment une conférence dans le cadre du Festisol intitulée « L'insécurité alimentaire, le marché, la guerre ». Alors première question, mais pourquoi cet intitulé Jacques ?
Parce que du fait d'un certain nombre d'événements, et pas seulement l'agression russe contre l'Ukraine, pas seulement la crise climatique, pas seulement la crise financière 2007-2008, l'insécurité alimentaire augmente et que le nombre de personnes mal nourries, dénutries, employez le terme que vous voulez, ne fait qu'augmenter depuis quelques années. Et je crois que parmi les causes fondamentales de cette situation, il y a la question du marché capitaliste, et en particulier du marché capitaliste du blé, qui est significatif du système capitaliste, qui est un système d'exploitation, comme on le sait tous, je pense.
Alors, pourquoi est-il significatif, ce marché du blé, Jacques ?
Ce marché du blé est significatif parce que, d'une part, la céréale blé, qui n'est pas la céréale la plus produite dans le monde, le maïs et le riz sont produits, me semble-t-il, en tonnage plus élevé, est la première céréale vendue dans le monde. Sur, disons, un peu moins de 800 millions de tonnes produites chaque année en blé, il y en a un peu moins de 200 millions, c'est-à-dire 25%, qui est sur le marché mondial. C'est le premier marché mondial de céréales au monde.
Comment on peut l'expliquer ?
Alors, on peut expliquer par différents facteurs, bien entendu. D'abord, ce marché du blé s'est développé depuis grosso modo 300 ans. Hein, il y a 300 ans, le marché du blé, c'était, d'après Fernand Braudel, un des maîtres historiens français, 0,03% du marché mondial. De la production mondiale de blé. Aujourd'hui, c'est le quart de la production mondiale de blé. Alors pourquoi s'est-il développé ? Eh bien, ce développement du marché du blé se fait parallèlement au développement du système capitaliste, au développement de l'industrialisation et de la révolution industrielle, au développement de l'impérialisme, au développement du colonialisme. Tout ça fait partie d'un tout global qui vise à assurer la domination d'un certain nombre de pays sur d'autres.
Et est-ce que ça conduit aussi à une consommation standardisée ?
Bien entendu. Bien entendu. Aujourd'hui, le blé, on le trouve dans tous les pays du monde. Alors, dans des quantités extrêmement différentes. Dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, la consommation de blé par individu est de l'ordre de quelques kilos, au mieux quelques dizaines de kilos. Dans d'autres pays, je citerai par exemple le Kazakhstan ou l'Azerbaïdjan ou l'Australie, on est à plus de 300 kilos par habitant et par an, dire quasiment un kilo par jour. Bon, évidemment, pain, farine, biscuits, etc. Toute consommation confondue, bien entendu. Donc, des différences importantes d'un pays à l'autre. Mais aujourd'hui, le blé est la seule céréale qui est consommée partout dans le monde, sauf sans doute dans quelques tribus éloignées d'Amazonie, de Bornéo ou d'ailleurs.
Alors, comment ça se passe ? Vous dites qu'il y a une concentration de producteurs. Est-ce que les plus gros producteurs sont les plus gros vendeurs ?
Non. Les deux plus gros producteurs aujourd'hui sont la Chine et l'Inde, avec plus de 100 millions de tonnes de blé chaque année. 130 pour la Chine, un peu plus de 100 pour l'Inde. Le problème, c'est que ces deux pays sont aussi les deux pays les plus peuplés de la planète et les deux plus gros consommateurs.
Donc il y a une consommation intérieure qui est très...
La consommation intérieure est 95% de la production approximativement, voire certaines années de 100%, puisque évidemment, en raison des aléas climatiques, la production peut varier de façon assez importante d'une année sur l'autre, de 5, 10, parfois 15%, en raison d'une sécheresse, en raison d'inondations, etc., etc. Les plus grands vendeurs sont les pays suivants, dire dans l'ordre, la Russie, les États-Unis, le Canada, la France et l'Ukraine. qui sont tous dans les 10 premiers producteurs mondiaux, mais ces 5-là représentent, je crois, plus des 2/3 des ventes de blé sur le marché mondial. C'est-à-dire qu'on a un marché typique capitalistique avec un groupe de pays et avec un groupe de sociétés. Bon, on peut citer Cargill aux États-Unis, on peut citer Louis Dreyfus en France, hein, qui sont dans une situation non pas de monopole classique, mais de semi-monopole dans lequel les ententes sont extrêmement faciles.
Oui, donc un marché capitaliste est-ouest, puisque vous parlez à la fois de la Russie et des États-Unis également.
Absolument. Et l'évolution de ce marché, aujourd'hui, est assez différente de ce qu'il était il y a quelques dizaines d'années. Au XXe siècle, le pays dominant était les États-Unis. L'URSS était autosuffisante, mais l'éclatement de l'URSS a entraîné une crise terrible, dramatique, pour les populations des pays de l'ex-URSS. Et ces pays se sont relevés au début du XXIe siècle, à partir de 2000-2005. Et de ce fait, aujourd'hui, la Russie, qui en l'an 2000 était le 6e ou 7e producteur mondial, est aujourd'hui le 3e producteur mondial, et était aussi le 5e, le 4e ou 5e exportateur mondial, aujourd'hui est le 1er exportateur mondial. Et l'Ukraine, qui pesait assez peu, est aujourd'hui le 3e ou 4e exportateur mondial. Donc, il y a un transfert du marché depuis les pays occidentaux, États-Unis, Canada, France, et secondairement Argentine, Australie et quelques autres, vers l'ex-URSS, et en particulier vers la Russie, premier exportateur mondial, et l'Ukraine, et puis à un degré moindre le Kazakhstan.
Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train d'induire peut-être que le blé devient une arme de guerre pour la Russie, de par le fait de cette importance dans leurs exportations donc, du blé ?
Le blé a toujours été une arme. Arme économique, arme de guerre, le blé a toujours été une arme dans les relations internationales. Hein, je crois qu'il ne faut pas être naïf au niveau des relations internationales. Ce qui compte, ce sont les rapports de force. Ce n'est pas la générosité, ni la fraternité. La réussite du développement agricole de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que du Kazakhstan et puis de quelques autres pays comme la Lituanie, est indéniable depuis une vingtaine d'années. Et de ce fait, le poids de la Russie est devenu prédominant dans les ventes de blé mondiales. À titre d'exemple, par exemple, un pays comme le Sénégal, qui n'est pas un pays grand importateur de blé, certes, reçoit plus de la moitié de son blé de la Russie et de l'Ukraine. Et dans certains pays, on peut citer l'exemple de la Syrie, mais il est un peu caricatural, en raison des liaisons extrêmement étroites entre la Syrie et la Russie, c'est 100% du blé importé par la Syrie qui vient de Russie. Mais il y a d'autres États qui sont dans ce cas-là, je n'ai plus la liste en tête.
Donc là, vous êtes en train de me dire deux choses. Vous dites que la Russie comme l'Ukraine sont de grandes puissances exportatrices et d'autre part que ceux qui sont les plus dépendants sont les pays du Sud de ces exportations.
Absolument.
Alors, première question qui émane de vos propos, par rapport à la Russie et à l'Ukraine, puisque donc l'Ukraine fait partie aussi de ces puissances dominantes exportatrices, quel est l'intérêt de l'URSS dans cette guerre ?
La Russie.
Par rapport à... Oui. La Russie.
L'intérêt de la Russie est d'être de plus en plus dominante. Pourquoi ? Parce que le poids que fait peser la Russie sur... Ah, excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière.
Oui.
Y a autant le marché exportateur du blé est un marché extrêmement concentré, hein, on l'a dit, je n'y reviens pas, avec quelques très grandes puissances, autant le marché importateur est un marché complètement déconcentré. Aucun pays n'a plus de... la part maximale d'un pays importateur est de 5% du marché. D'un côté, la Russie, 40% du marché. De l'autre côté, premier pays importateur, 5%. Donc, un marché déséquilibré entre des exportateurs peu nombreux et très puissants qui peuvent faire la loi qu'ils veulent sur le marché. Et de l'autre côté, des pays importateurs qui sont extrêmement nombreux, mais extrêmement divisés. Donc, il y a une dissymétrie du marché qui est extrêmement importante.
Et mainmise peut-être des Russes sur le blé ukrainien ?
Alors la mainmise des... Oui, alors on revient à votre question. La mainmise des Russes sur le blé ukrainien est réelle. Hein, il y a des millions de tonnes de blé ukrainien qui ont été volées par les Russes. Tout le monde le sait, Poutine aussi, bien entendu, même s'il le dément. Hein. Donc le rôle, l'intérêt de la Russie est effectivement de devenir... plus encore le premier exportateur mondial de blé pour peser de plus en plus et pour s'assurer des fidélités dans les votes à l'ONU. Hein, on constate que après l'agression russe en Ukraine, un certain nombre de pays qui n'étaient pas obligatoirement très liés à la Russie du point de vue politique se sont abstenus. Il est vraisemblable que dans un certain nombre de cas, je n'en ai évidemment jamais la preuve et personne n'en a la preuve, mais il y a eu des pressions des ambassades russes pour leur dire « Oui, ben attention, hein, si vous voulez continuer à avoir du blé à bon marché, on ne va pas vous demander de voter pour nous, mais ne votez pas contre nous. »
Alors vous êtes en train de dire marché captif, pays captif.
Exactement. Mais ça a été la politique de la France dans son précaré d'Afrique noire depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, hein, même si ces pays sont aujourd'hui de moins en moins captifs. C'est une règle non dite des relations internationales.
Alors, quand même, Jacques, les tendances de ces 20 dernières années, c'était à une baisse de la malnutrition. Est-ce que les années plus récentes, il en est de même, malgré ces crises successives ?
Malheureusement, non. La malnutrition s'aggrave. Depuis, elle a connu une première aggravation au moment de la crise financière 2008-2009. Puis, on est revenu à une diminution de la malnutrition. Et depuis quelques années, avec à la fois la crise covidienne, la crise climatique et maintenant la crise militaire entre la Russie et l'Ukraine, fait que la malnutrition s'aggrave, et s'aggrave de façon dramatique. Et aujourd'hui, le nombre de personnes mal nourries ou dénutries n'a jamais été aussi élevé depuis 10 ans. Et il s'aggrave régulièrement, d'année en année, malheureusement.
Jacques, notre émission se termine, on a peu de temps, et je voudrais simplement qu'on... essaye d'avoir une note positive. Est-ce que vous avez des éléments de solution ?
Des éléments de solution, certains diraient qu'il faut détruire un marché capitaliste. C'est une réaction évidemment un peu simpliste et je n'ai pas ce type de réaction. Je pense que parmi les éléments de solution, il y a le renforcement de l'agriculture des pays qu'on appelle les pays du Sud, en particulier en Afrique, avec le développement de l'agroécologie, qui me paraît être une voie d'avenir, et avec aussi, peut-être, la diminution des cultures de rente, genre arachide, coton ou autre, qui ont été introduites par le colonialisme français, britannique ou autre, pour justement financiariser ces économies et leur permettre de payer des impôts. Et ça fait au détriment, évidemment, des cultures vivrières. Donc je pense qu'il faut aussi absolument, à nouveau, redévelopper les cultures vivrières pour aller vers une meilleure autonomie et limiter la dépendance de certains nombres de pays à ce marché capitaliste dont les seuls bénéficiaires sont les grandes puissances mondiales aujourd'hui.
Je vous remercie d'être venu à cette émission. Et je vous dis à bientôt, et aussi à bientôt, amis auditeurs, pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.